Vous êtes toujours avec nous sur Bac FM, la radio du PAF, 100% pop rock metal. On est en début d'après, mais comme chaque jour dans CDLP, c'est dans les parages, on tend notre micro à celles et ceux qui font l'actualité dans notre département nivernais. Aujourd'hui, on va parler biodiversité et plus particulièrement d'un petit amphibien au nom presque de personnage de conte, le sonneur à ventre jaune. Dans le cadre du programme Natura 2000 Amogne-la-Machine, une étude scientifique est lancée cette année pour mieux suivre cette espèce se protéger. L'objectif est simple, savoir où le sonneur à ventre jaune est encore présent, comment son occupation du territoire évolue et comment mieux préserver les points d'eau et les milieux humides dont il dépend. Cette deuxième phase de suivi aura lieu entre avril et juillet 2026 sur environ 200 mailles de 300 mètres par 300 mètres avec plusieurs passages sur le terrain. Des intervenants spécialisés pourront donc être amenés à traverser ponctuellement certaines parcelles, notamment agricoles, toujours dans le respect des propriétés privées des troupeaux et des usages locaux. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Valérie Salom, animatrice Natura 2000. Bonjour Valérie Salom.
Bonjour.
Bienvenue sur Bac FM.
Merci.
Alors, ma première question de présentation est la suivante. C'est quoi exactement Natura 2000 Amogne-la-Machine ?
Eh bien, donc, comme vous l'avez dit, donc, je suis animatrice du site Natura 2000. Donc le site Natura 2000, bocage, forêt et milieu humide des Amognes et du bassin de la Machine. Mon rôle, donc, c'est de travailler avec tous les acteurs du territoire, qu'ils soient, comme vous en avez déjà parlé, des agriculteurs, des propriétaires forestiers, qu'ils soient privés ou des forêts publiques, et également des collectivités, donc les communes ou les communautés de communes. Et l'objectif de Natura 2000, c'est bien de préserver la biodiversité tout en maintenant les activités locales. Donc Natura 2000, c'est une démarche qui cherche à trouver un équilibre et c'est basé systématiquement sur le volontariat et la concertation.
Donc c'est pas une asso ou une entreprise, c'est au niveau national ou je crois au niveau européen.
C'est exactement, c'est un programme européen qui est décliné dans tous les pays d'Europe et ça représente au niveau national 12% du territoire qui est couvert par des zones Natura 2000. Et après, si on parle un peu plus précisément du secteur des Amognes et du bassin de la Machine, donc c'est un territoire qui est très riche, qui est, comme son nom l'indique, un paysage de bocages, donc les bocages, les prairies, les haies, de forêts, et puis beaucoup de petites zones humides. Et c'est cette diversité de milieux qui en fait un secteur intéressant pour la biodiversité et puis pour notre petit sonneur à ventre jaune.
Vous êtes combien au niveau local ? Je sais pas si...
Eh bien, moi, sur ma zone qui fait 32 000 hectares, je suis toute seule.
Waouh!
Et puis, après, sinon, on est une dizaine animateurs de Natura 2000 au niveau du département.
Alors, on va parler aujourd'hui du fameux sonneur à ventre jaune. Pour les auditeuristes qui ne le connaissent pas, à quoi ressemble cet animal?
Donc, c'est un assez petit crapaud. On imagine les gros crapauds qu'on voit dans nos caves de maisons de campagne qui font peut-être une dizaine de centimètres. Donc là, nous, le crapaud sonneur à ventre jaune, c'est un petit crapaud qui fait 3-4 cm, assez discret, qu'on remarque rarement. Et il a un dos camouflé, marron. Et sa spécificité, c'est son ventre jaune et noir très vif, un peu comme les salamandres, je ne sais pas si vous voyez. Et ce ventre, il va le montrer, il peut se mettre sur le dos pour se défendre. C'est un réflexe. Et surtout, il émet un petit chant très caractéristique au printemps qui lui vaut son nom de sonneur.
On va d'ailleurs en écouter un extrait dès maintenant. Donc ça, c'était pour le sonneur à ventre jaune. Est-ce qu'il a d'autres caractéristiques ?
Eh bien, c'est une espèce qui est protégée au niveau national et c'est une espèce emblématique du site. C'est un peu le panda des Amognes, vous voyez. Donc, elle est encore bien présente au niveau localement, mais ça reste très fragile. Donc, c'est important pour nous, naturalistes, de mieux connaître sa répartition pour pouvoir la préserver. Il faut savoir qu'en Bourgogne, on est un territoire où on le retrouve beaucoup, donc on a une forte responsabilité de préserver son habitat pour qu'on puisse le voir le plus longtemps possible.
Pourquoi s'intéresser spécifiquement à cette espèce ? Qu'est-ce qu'elle nous dit au fond de l'état des milieux humides et de la biodiversité locale ?
Donc, comme je vous ai présenté tout à l'heure, donc c'est une espèce qui est protégée et elle est protégée parce qu'elle a perdu une grande partie de ses habitats. On parle de changement climatique aujourd'hui, de période de sécheresse. Et en fait, lui, sa période de reproduction, elle tombe exactement quand il y a des seuils critiques au niveau des zones humides. Donc, elle est protégée aujourd'hui parce qu'elle y a perdu son habitat. Donc, le fait que les milieux aient beaucoup régressé, ça fragilise cette espèce. Et ce petit crapaud est un très bon indicateur de la qualité de notre environnement. Si on le retrouve, ça veut dire que le milieu est fonctionnel. Un milieu fonctionnel, ça veut dire qu'on a un petit bout de forêt à côté d'une haie, à côté d'une parcelle en bocage, en prairie. Ça veut dire qu'il y a peut-être du pâturage aussi, de bovins à côté. Et quand ce milieu disparaît, le sonneur va disparaître. Et c'est souvent du coup un signe que les zones humides et les habitats qu'on veut protéger dans les amognes se dégradent.
Donc si je suis le raisonnement, le fait qu'il y en ait de moins en moins est quand même un peu inquiétant.
Alors justement, on ne sait pas encore s'il y en a moins en moins, puisque cette étude qu'on fait là en 2026, on l'a déjà faite en 2023, et là, on va retourner exactement aux mêmes endroits pour voir est-ce qu'on le retrouve ou est-ce qu'il a augmenté, parce qu'on peut aussi dire qu'il a augmenté. C'est également une étude qui a été faite dans d'autres zones Natura 2000 de Bourgogne, notamment dans le parc du Morvan ou dans le Clunisois, qui sont aussi des sites Natura 2000 de très grande taille, qui ressemblent à celui des Amognes et du bassin de la Machine. Et donc, on est les derniers à faire le deuxième passage, et on va pouvoir mettre, du coup, 6 années d'études, les compiler, pour justement en dégager les tendances. Est-ce qu'il se maintient? Est-ce que son habitat régresse? Est-ce qu'on le retrouve plus, etc.?
Donc à la fin, il y aura une sorte de comptage, en fait, pour savoir à peu près un grosso modo de chiffres.
C'est ça. Alors, on ne va pas compter tous les petits crapauds qu'on va croiser. En fait, c'est une étude présence-absence. C'est-à-dire, on va arriver à un endroit, on va voir si on l'entend, si on voit ses œufs, si on le voit lui ou ses larves. Et ses têtards, quoi. Et ensuite, on va... c'est présence-absence. On ne va pas avoir un comptage très précis de la population totale. Après, pour l'anecdote, c'est vrai que les dessins de son ventre, le motif jaune et noir, c'est un peu comme notre empreinte digitale. Donc si on veut, dans 30 ans, revenir et regarder les dessins des crapauds sonneurs à un endroit précis, on pourrait les reconnaître. Il y en a qui ont étudié en Franche-Comté, et ils ont étudié et le crapaud avait 33 ans.
Et vous serez réinvité dans 30 ans, c'est promis. Donc vous allez travailler sur environ 200 points ou de mailles suivies. Comment ces zones ont-elles été choisies?
Donc elles ont été choisies principalement par la présence potentielle d'une zone humide. Donc soit une petite mare, soit des ornières forestières, parce que c'est un crapaud qui aime habiter en forêt. Donc des ornières forestières, c'est-à-dire qu'il y a un engin ou un véhicule qui est passé, ça a créé un petit réservoir, et le crapaud sonneur, il aime bien quand c'est nouveau. Donc il va venir et il va utiliser cette ornière pour se reproduire. On peut sélectionner aussi les petits endroits, les petites mailles, par des zones humides temporaires. Ce sont souvent des milieux discrets, presque un milieu banal. On va passer à côté en temps normal, mais c'est des milieux qui sont essentiels pour la reproduction du sonneur.
La méthode prévoit 3 passages de 20 minutes par maille entre avril et juillet. Pourquoi plusieurs passages sont-ils nécessaires?
Alors en fait, ça, c'est des maths, c'est pour les statistiques.
Ah, on salue nos amis qui, alors je veux dire, qui font S et plus S maintenant, mais qui ont pris option maths.
Voilà, c'est pour les statistiques. En fait, on va être 3 observateurs différents et on va tous passer une fois sur chaque maille. L'objectif, c'est de s'affranchir de l'effet observateur, on va appeler ça comme ça. Et peut-être qu'il y en a un qui va être plus attentif sur le visuel, un autre sur le champ ou qui va mieux repérer les œufs. Et du coup, le fait de passer 3 fois au même endroit, à 3 moments différents, on a plus de chances de le repérer. Et puis comme ça, on s'affranchit aussi un peu de l'effet météo, puisque du coup, là, ça va être 3 passages qui vont être étalées. Donc on commence la semaine prochaine et on finira fin juin. Donc c'est étalé sur un mois et demi. Voilà, on a eu un début de printemps assez chaud, sec. Et là, aujourd'hui, on a de la chance, il pleut. Donc, on va pouvoir étaler l'effet météo aussi sur un mois et demi.
Et si d'aventure, l'espèce n'est pas présente, est-ce que ça veut dire qu'elle disparaît ou est-ce que ça veut dire qu'elle se déplace ?
Alors, non, c'est un petit crapaud et qui peut faire que 300 mètres par an.
D'accord.
Donc, il ne va pas se déplacer beaucoup. Et puis, si on ne le voit pas, c'est peut-être que les conditions météo n'étaient pas remplies pour qu'on l'observe. C'est peut-être que c'est un endroit qui n'est pas propice aussi à ce qu'il soit présent. Et il peut y avoir aussi eu des changements au niveau de son habitat. Donc, voilà, il ne faut pas tirer de conclusions hâtives et il faut bien s'appuyer sur les 6 dernières années de suivi.
Le sonneur à ventre jaune vit dans quel type de milieu ? Alors, je pense qu'on pense aux mares, aux ornières, aux fossés. Est-ce qu'il y a des zones très précises ?
Eh bien, c'est un crapaud qui est forestier. Ça veut dire qu'il a besoin de la forêt pour hiverner. Donc, il va se cacher dans des tas de bois morts, dans de la mousse, etc. Et il a besoin du milieu aquatique, donc les ornières, les petites mares, les petits bouts de rivière, les chevelus de ruisseaux, etc. Il a besoin du milieu aquatique que pour sa reproduction. Et donc, c'est vrai que là, nous, on a ciblé sa période de reproduction sur mai, juin, début juillet, parce que c'est le moment où ils sortent le plus, où on les voit le plus. C'est le moment où ils sont les plus actifs, où ils vont chanter, et donc ils seront plus faciles à détecter.
Le document indique que le pâturage extensif est une bonne pratique. Pourquoi ce type d'activité agricole peut-il être favorable à cette espèce ?
Eh bien, parce qu'il a besoin que le soleil réchauffe l'eau dans laquelle il va se reproduire. Et donc, le fait que les vaches pâturent, elles vont rabaisser la hauteur d'herbe. Donc, le soleil va avoir plus de chances d'arriver, les rayons du soleil vont avoir plus de chances de chauffer l'eau. Et avec les traces de pattes des vaches, ça va créer des petits creux qui vont faire finalement des mini bacs de reproduction. Donc, le pâturage extensif, c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué au début, mais c'est un pâturage où il en faut un peu, mais pas trop. C'est un équilibre entre l'activité agricole et la préservation de la biodiversité. Et c'est vrai qu'on a, dans les zones Natura 2000, la possibilité d'accompagner les agriculteurs qui veulent s'engager dans ces pratiques de pâturage extensif. Ça s'appelle les mesures agro-environnementales et climatiques, les MAEC, c'est leur petit code. Et on a notamment une MAEC qui permet de clôturer une partie de prairie pendant la période de reproduction du sonneur pour que le sonneur soit tranquille et ne risque pas de se faire écraser par une grosse patte de vache. Donc ça, c'est un exemple concret de l'action que peuvent porter les agriculteurs et le monde agricole pour préserver la biodiversité.
C'est marrant parce qu'on pourrait croire que protéger la nature veut dire non pas ne plus toucher au milieu. Alors là, on comprend quand même que certaines pratiques agricoles peuvent aider aussi à la conservation des espèces.
Tout à fait. C'est un équilibre et c'est vrai que les agriculteurs, c'est des partenaires à part entière de ce travail-là, mais comme les propriétaires forestiers, puisqu'il y a plus de la moitié des forêts de la zone des Amognes qui sont publiques, soit domaniales, communales, donc qui sont en très grande partie gérées par l'ONF, l'Office National des Forêts, et c'est des partenaires aussi de travail très proches, notamment sur... Là, on va pouvoir lancer des programmes de rénovation de mares. Et donc, on travaille avec eux, avec les agriculteurs, également avec la Fédération départementale de chasse de la Nièvre, qui a aussi des actions en faveur de la biodiversité. Oui, tout à fait.
Alors là, je pense aux propriétaires ou aux agriculteurs riches qui nous écoutent. Il peut y avoir peut-être une inquiétude, voir des intervenants traverser une parcelle. Est-ce que ça veut dire contrôle, contrainte ? C'est un sujet qui est assez tendu en ce moment.
Non, alors surtout, nous, on n'a pas de casquette de contrôle. On est vraiment là pour... On fait un petit passage éclair, quoi.
C'est intéressant, il y en a pour combien de temps, un passage ?
Alors, une maille, c'est maximum 20 minutes. Dès qu'on l'a vu, on peut s'arrêter au bout d'une minute si on le voit directement en entrant dans la maille. et c'est maximum 20 minutes. L'objectif, c'est vraiment, est-ce qu'on le voit, est-ce qu'on le voit pas? Et sinon, nous, donc les trois personnes qui vont intervenir sur le terrain, on est des naturalistes. Donc, il y aura deux naturalistes de la SHNA, donc c'est la Société d'Histoire Naturelle d'Autun, qui sont spécialisés dans les amphibiens. Et puis moi, du coup, qui interviendront. On sera bien vigilants sur les clôtures ou la présence d'animaux dans les parcelles. Voilà, il faut être vraiment rassuré. Et surtout, on peut nous contacter si on a des questions en plus, quoi. Il n'y a aucun problème.
Et bah vous en priez. Sur ma prochaine question, justement, est-ce que les habitants ou les habitantes peuvent aider ce suivi, par exemple en signalant une mare ou...
Alors non, parce que du coup, on a déjà choisi les endroits où on va aller faire les observations et c'est les mêmes qu'en 2023. Donc on n'a aucune latitude sur ça, mais si c'est pour poser d'autres questions sur d'autres espèces ou d'autres sujets, ce sera avec plaisir.
Moi, je m'intéresse aussi aux données collectées suite à ces études. Qu'est-ce qui va se passer après ? Est-ce que ça va permettre un état des lieux, de déclencher des actions concrètes de préservation ?
Alors, l'objectif, c'est déjà, dans un premier temps, vu qu'on a un recul de 3 ans, on va pouvoir voir les actions qui sont déjà mises en place. Donc, on a parlé des MAEC pour les agriculteurs ou d'autres actions qu'on peut mettre en milieu forestier. On va déjà pouvoir voir, est-ce qu'on a une évolution ? Est-ce qu'on peut attribuer cette évolution à une action qu'on a faite ? Et donc déjà, ça va nous faire une photo à l'instant T. Et on va refaire le suivi en 2029. Donc ça va nous permettre encore de faire évoluer les tendances. Et comme je disais tout à l'heure, c'est une étude qui est faite dans 2 autres grands sites Natura 2000. Donc à l'échelle de nos 3 sites... On va aussi pouvoir dégager des tendances au niveau de la grande région Bourgogne. Et ça va permettre, puisqu'on est dans un contexte Natura 2000, ça permet après à la France de faire des remontées au niveau de l'Europe pour dire, bah nous on s'appuie sur tel type d'études. En Bourgogne, on a ces tendances-là. Et du coup, nous, au niveau national, pour la zone continentale, on peut partir sur ces tendances. Donc en fait... Une petite maille de 200 mètres par 200 mètres, elle peut remonter jusqu'à l'Europe.
Jusqu'à Bruxelles. mais est-ce que vous, en tant que naturaliste, vous faites remonter les données, hein, on l'a bien compris, mais est-ce que vous pouvez faire aussi des recommandations, justement, pour améliorer l'espace ?
Ah oui, tout à fait. Bah justement, c'est le cœur de mon travail de 2026, qu'on a commencé l'année dernière. Donc, dans tous les sites, que ce soit un site Natura 2000, une réserve naturelle, un parc national comme le parc national des Écrins ou les parcs ou les réserves qu'il y a en côte marine, il y a un plan de gestion, donc qui peut s'appeler plan de gestion ou document d'objectif, dans lequel on va mettre des actions. Et ces actions, eh bien, il faut qu'on fasse des bilans à mi-parcours. Donc ces remontées, elles servent aussi à nous montrer, nous gestionnaires de sites, est-ce que ça porte ses fruits ? Est-ce qu'il faut l'ajuster ? Donc oui, c'est ces indicateurs, donc ça remonte à Bruxelles, mais ça nous sert aussi en local pour ajuster les actions. Peut-être qu'il faut, pour le pâturage extensif, continuer à l'encourager, augmenter les surfaces, ou peut-être justement il faut réduire la durée de mise en défense, enfin de clôture, pour qu'il y ait plus de traces de pattes de vaches. Enfin voilà, c'est ces actions-là après qu'il va falloir ajuster.
Alors j'ai bien compris que l'étude est loin d'être terminée puisqu'elle se termine en 2029 si j'ai bien suivi. Mais cependant, est-ce que vous avez déjà un avis sur la question ? Par exemple, est-ce que vous êtes inquiète à titre personnel pour le sonneur ou pas ? C'est quoi la première photographie au moment où on se parle ?
Eh bien, vous m'auriez posé la question il y a 15 jours, 3 semaines où la pluie n'arrivait pas. Je vous aurais dit que j'étais inquiète. aujourd'hui, je le suis un peu moins. Après, c'est vrai que ça, c'est une photo juste très courte aujourd'hui, le 11 mai. Les tendances qu'on a dégagées l'année dernière sur des petits suivis ponctuels qu'on avait fait montrent qu'on a quand même un maintien de la population du sauneur, mais qui est... la population, il reste présent dans la zone des Amognes, sous réserve qu'il y ait eu des actions qui soient mises en place. Donc soit des secteurs préservés en milieu forestier, de la rénovation de mares, les actions des agriculteurs ou les actions des privés aussi, hein, arrêter de combler des mares. Il faut voir que dans les 35 dernières années, on a perdu plus de la moitié des mares dans la Nièvre. Donc ça veut dire que aussi c'est une action, chacun peut apporter sa petite pierre à l'édifice en maintenant une mare en bon état, en n'utilisant pas de produits à côté d'une mare, enfin des choses comme ça. C'est des petits gestes qu'on peut faire au quotidien, en local.
Est-ce que pour le sonneur à ventre jaune, finalement, le danger n'est pas le même que pour l'humanité, si je prenais un temps un peu fataliste, c'est-à-dire de changement climatique ou de réchauffement climatique, puisque là aussi, je sais qu'il y a un débat sur le terme.
Oui, oui, oui. Après, le résultat est le même. Hein. Il y a une évolution. Comme ça, on utilise un troisième mot. Comme je disais tout à l'heure, le sauneur, c'est le panda, c'est le panda des Amoines, c'est une espèce emblématique. Et elle a été choisie, cette espèce, parce qu'elle est indicatrice. Elle illustre vraiment les tendances. Et c'est pas quelque chose que je vous apprends de vous dire qu'en Europe, en France, on a la chance qu'il y ait de la pluie. On est, on est un climat où il y a de l'eau, il y a des milieux humides. Et c'est vrai qu'on on porte une responsabilité de ces milieux humides. Et le sonneur nous permet de nous donner l'indication de l'état de ces milieux humides. Donc il va forcément être impacté par l'évolution du climat, qui a priori...
ne va pas dans le bon sens.
Va dans le sens du réchauffement. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est mauvais? Aujourd'hui, ça va dans ce sens-là. On sait que c'est lié aux activités humaines. De combien de degrés ça va augmenter, c'est la question.
On parle de 1,5 et 2, à peu près.
Voilà, en croisant très fort les doigts. Ouais. Et l'objectif, c'est de permettre de maintenir ces espèces, mais on ne va pas pouvoir les transporter de 300 mètres, plus de 300 mètres tous les ans. Je vous ai dit... Voilà, sa capacité de déplacement par an, c'est 300 mètres. Or, aujourd'hui, je crois que la limite géographique des zones, des différentes zones, elle augmente de beaucoup plus que 300 mètres. Donc, que ce soit pour les arbres, que ce soit pour les espèces qui ont des petites capacités de déplacement, eh bien, il y a un moment où elles vont être confrontées à leur limite physique de déplacement. Et donc, l'objectif, c'est aussi de maintenir leurs habitats là où ils sont aujourd'hui. Voilà.
C'est un bel objectif. Merci beaucoup, Valérie Salam, d'avoir été avec nous sur VKFM. J'ai une dernière question. Où est-ce qu'on peut retrouver les infos?
Alors, il y a un site internet de la communauté de communes Amoines-Cœur du Nivernais où il y a des pages Natura 2000. Vous pourrez y retrouver les différents comptes rendus d'activités des dernières années. Et une description du site si vous voulez en savoir plus. Et sinon, la SHNA aussi a un site internet, donc Société d'Histoire Naturelle d'Autun, où vous pouvez avoir des descriptions de toutes les espèces. Et ils ont même parfois des appels à remonter des observations en fonction des saisons. Donc les premiers papillons ou les pollinisateurs ou des espèces des fois un peu plus méconnues de Bourgogne.
Merci encore.
Je vous en prie.
C'était CDLP, c'est dans les parages, votre émission 100% locale sur BAC FM. Restez avec nous sur la radio pop, rock et métal.